Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, tous les mardis on parle des expositions à ne pas rater et aujourd'hui on va parler de l'expo Caravage à Paris. Le réveil culturel, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio, quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui la technique Olivier Dupré. C'est donc l'expo dont tout le monde parle à Paris. Donc, si vous n'êtes pas parisien, mais si vous êtes de passage dans la capitale d'ici au 29 janvier, n'hésitez pas à consacrer un peu de votre temps pour aller au musée Jacquemart-André voir l'exposition Caravage à Rome, amis et ennemis. Ce n'est certes pas la première exposition consacrée à cette grande figure emblématique de la peinture européenne du XVIIe siècle, mais il y a quand même 10 peintures réunies pour la première fois au musée Jacquemart-André à Paris, et ses originaux méritent le détour parce que certains sont vraiment inédits en France. Pour nous en parler ce matin, Olivier Vickers.
Le réveil culturel.
Bonjour Toufik.
Mardi, expo.
Bonjour Olivier Vickers.
Bonjour Toufik.
L'énarque que vous êtes a une double vie, on le sait. Quand vous n'êtes pas haut fonctionnaire au service de l'État, vous écrivez sur des sujets qui vous passionnent. Après 2 essais sur l'écriture, paru chez Gallimard, un essai sur Jean-Paul Sartre, l'autre sur Proust, vous avez publié en janvier 2017 un ouvrage sur l'œuvre du Caravage, « Perdre le jour ». Caravage en 5 actes, c'est une enquête sur 5 tableaux, et c'est un texte bien sûr qui vous a été inspiré après la série d'émissions que nous avons enregistrées ensemble en 2015. Alors pour vous, si j'ai bien compris, Olivier Vickers, il y a deux mots qui ne peuvent pas marcher ensemble, c'est le Caravage et exposition. Pourquoi ?
Eh bien Toufik, je reprendrai même votre présentation, vivante, brillante, destinée à réveiller nos auditeurs. Vous dites une exposition à ne pas rater. Je dirais que c'est Caravage qui ne nous rate pas. Et vous dites l'exposition dont tout le monde parle. Or Caravage voudrait bien que nous nous taisions. Donc ce qu'il y a d'anti-exposition en effet chez Caravage, c'est qu'on aurait envie de dire à nos concitoyens, nos amis ou peut-être nos meilleurs ennemis, allez-y. Et en vérité c'est plutôt fuyez, tout est découvert. Qu'il faudrait dire, puisque quand on va voir Caravage, c'est comme se confronter à des acides, à une vérité, et c'est comme cesser de se fuir.
Est-ce qu'on peut dire que cette exposition met aussi en valeur tous les contemporains de Caravage ?
Oui, au sens où elle, l'exposition, il, le peintre, les éclipse. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui fait un grand peintre, c'est finalement qu'il ne vous parle pas comme les autres peintres de qualité, mais moins intéressants à mes yeux. Il ne vous parle pas de qui il est, il ne vous parle pas d'où il est, de ce qu'il fait. Il vous parle depuis une sorte d'exil, c'est-à-dire qu'un pays qu'on ne connaît pas, mais dont on sent que lui-même ne s'y trouve pas si bien, et il s'y trouve finalement si mal qu'il aimerait bien que vous l'y rejoigniez, quand même ce trajet va avoir un prix.
Pour être un peu plus explicite, Olivier Vickers, quelle est la bonne raison d'aller voir quelqu'un qui ne mérite pas une exposition, d'aller voir cette exposition du Caravage, donc?
Cesser de se fuir. Caravage nous confronte à nos fictions, la fiction que nous sommes un sujet, que nous avons une biographie, une valeur. Et Caravage, en quelque sorte, par ses tableaux, nous dit « En es-tu si sûr ?» Et je vais te montrer autre chose qu'un sujet, qu'une biographie. Donc la bonne raison d'y aller, c'est cesser de se fuir.
Et pour se retrouver dans la Rome du XVIIe siècle ?
Pour se retrouver, non, dans une, comme toutes les grandes œuvres, elles ont évidemment une époque de conception. Caravage a évidemment une biographie. Il est né en 1571, mort en 1610. Il a évidemment des contemporains. Un de ses tableaux, ce Saint-François regardant un crâne, a été peint quand Shakespeare écrit Hamlet. Et en même temps, comme tout génie, il est hors du temps et il crée son espace à lui. Ce qui fait que nous pouvons le voir aujourd'hui, en 2018, sans nous dire « Mon Dieu, est-ce que je vais le comprendre, puisque je ne suis pas un Romain du XVIIe siècle ?» Donc la vie culturelle, comme votre émission le montre, est plus compliquée. Les contemporains n'y voient pas toujours bien. Il ne suffit pas d'être loin comme nous pour y voir mieux. Et il faut chercher ce hors du temps, cet espace singulier d'une œuvre géniale, mais qui renvoie à chacun d'entre nous, c'est là où je serais optimiste, nous avons chacun à l'intérieur de nous ce rapport singulier à des espaces et à un temps, et que les génies finalement rouvrent il y a quelque chose d'assez proustien, on pourrait dire, dans le projet, qui est de vous dire, il y a un hors du temps, qui n'est pas que la mémoire, qui n'est pas que le présent, et où on côtoie des figures, eh bien, qui nous disent mieux que des figures trop arrangées, trop finies, trop jolies, qui nous sommes, nous ne sommes pas.
Qu'est-ce qui nous dit de nouveau le Caravage à partir de cette exposition, à partir de ce nouveau dispositif que vous êtes allé visiter deux fois, Olivier Vickers? Ce n'est pas rien de le rappeler.
Écoutez, Toufi qui nous dit pas mal de choses, donc on pourrait déjà rappeler qu'il nous demande « qu'est-ce que tu fais là ?» Ce qui est là aussi une anti-exposition, comme vous m'invitiez à l'illustrer, c'est-à-dire tant dans le tableau du joueur de luth qui vient de l'Ermitage que dans le jeune Saint-Jean-Baptiste qui vient de Rome, nous avons deux personnages qui, loin de se donner, de s'offrir, de s'exposer à nos yeux, ont plutôt tendance à nous regarder droit dans les yeux justement et à nous défier du regard en disant « qu'est-ce que tu me veux ?» Dans le cas du joueur de luth, qui renvoie plutôt la question du désir, qu'est-ce que je fais quand je regarde, vouloir incorporer, associer, faire le malin. Et Saint-Jean-Baptiste, c'est plus proprement caravagesque, c'est-à-dire ce corps un peu nu, de jeune homme quelconque, enlaçant un bélier, il nous met au défi d'y reconnaître un saint, c'est-à-dire le défi du Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire donne-moi un nom.
Oui, parce qu'il est plus enfant espiègle que saint, cet adolescent qui rit comme s'il venait de commettre une bêtise.
Exactement, il joue un bon tour. Mais on voit le tableau, on se dit exactement ce que vous dites, Toufik. Donc, il nous joue un tour, mais lequel? Eh bien, le tour, c'est le tour de passe-passe du nom. C'est-à-dire que sur le cartouche du musée, on va lire Saint-Jean-Baptiste. Sur le catalogue, on va lire Saint-Jean-Baptiste. Et pourtant, on aura beau regarder, écarquiller, ouvrir les yeux, se souvenir de tous les Saint-Jean-Baptiste qu'on a vus dans les églises. On apercevra une peau de bête, la vie au désert, le drap rouge, on se dira c'est peut-être lui, mais tout dans ce jeune homme dit je ne suis pas celui que tu crois et nomme-moi si tu l'oses. Donc le tour qu'il joue, c'est le tour de passe-passe, d'escamoter le nom, parce que pour Caravage, le nom, l'identité, la langue, le jour en quelque sorte, eh bien nous font perdre quelque chose qu'il a la prétention de nous rendre, à condition que nous soyons capables nous aussi, de lui sacrifier quelque chose.
On peut constater que c'est un beau tableau. Vous allez me dire, Olivier Vickers, qu'on n'a pas attendu 2018 pour se dire qu'on a affaire à un des plus grands peintres de l'histoire picturale.
Ah si, parce que Caravage a connu une éclipse pendant très longtemps. En fait, je pense que Caravage est rétabli dans la modernité depuis les années 50, considéré comme un génie absolu aujourd'hui, de manière paradoxale, parce que nous sommes finalement l'époque qui est très fière d'être elle-même ou que chacun soit lui-même, parce que je le vaux bien, dit une grande publicité. Eh bien, Caravage plutôt nous indique, es-tu si sûr que cela, qu'il faut être fier d'être soi. Être soi, c'est être limité, certes unique, mais finalement un seul, et ne perds-tu pas dans ta fierté d'isolement quelque chose d'un rapport à un monde de lumière, de corps, de physique qui se passait des mots et qui se passait volontiers de ton nom et de ton prénom.
C'est ce que vous chuchote le Caravage depuis le musée qui expose ses œuvres, c'est-à-dire Jacques Marandré.
À vrai dire, il nous le crie plutôt dès la première salle. Vous verrez le Judith décapitant Holoferne, sorte d'opération chirurgicale. Douloureuse sans doute pour Holoferne, mais pénible pour Judith, parce qu'il faut être précise, elle a les bras tendus, l'air appliqué. Et je pense que commencer son rapport à Caravage par cette première salle, c'est à la fois entendre Caravage qui nous crie plutôt qu'il ne nous murmure ou chuchote à l'oreille « je vais t'opérer de toi-même ». Te coupant la tête, loin de te diminuer, je t'augmente en te renvoyant à ce que tu étais avant de te constituer en sujet, en identité, en corps. Et le grand rouge, le grand noir qui sont dans ce tableau, rouge du rideau, noir du fond, eh bien c'est cette espèce d'infini que Caravage promet en échange de la perte de son individualité. Donc allez vous faire opérer par Judith dans la première salle. En la visitant deux fois, comme vous le disiez, je ne suis pas sûr que tous les gens merveilleux qui m'entouraient avaient l'idée que se défaire d'eux-mêmes serait véritablement un objectif et un prix, mais c'est un peu ce que Caravage dit. Votre sujet n'est peut-être pas si grand que cela, qu'il ne puisse se défaire, se découper, et bizarrement, à disparaître, augmenter.
Mais il le dit au public de Jacques-Marc-André, ou il le dit à ses contemporains, à ses amis, à ses ennemis de Rome?
Oh, il le dit à tout le monde, mais il le dit effectivement déjà à ses contemporains. Caravage est un peintre très recherché, hein. Tout le monde veut très vite des tableaux de lui, les gens les plus riches, qu'ils soient d'ailleurs laïcs ou clercs, cardinaux. Donc très vite quand même, le public cultivé ne s'y trompe pas, mais dans un rapport qui peut être de perversité des riches, qui est de considérer Caravage donne une leçon de vie que moi je suis capable de recevoir, de comprendre, mais sans me l'appliquer. La première exposition d'un tableau qui ait jamais eu lieu d'après les historiens de l'art est bien celle de la mort de la Vierge, qui est au Louvre et qui n'a pas traversé la Seine, bien qu'elle n'en ait pas besoin tout à fait pour aller jusqu'au Jacquemart-André. Et donc ce tableau scandaleux, refusé par le clergé de l'église du Trastevere à laquelle il était destiné, suscite une telle émotion populaire qu'en fait l'opinion publique, mais érudite, peintre, grand public d'aujourd'hui dont nous sommes, exige de voir le tableau. Et donc la première exposition d'un tableau, c'est là le paradoxe des expositions de Caravage, qui présente ce qui est irreprésentable, parce que c'est le dernier aspect de cette anti-exposition. Il nous met sous le nez un corps nu sans nom baptiste, un corps décapité atroce, comme les terroristes d'aujourd'hui, qui s'empressent de nous faire des vidéos de décapitation, parce qu'il nous présente une chose pour laquelle nous n'avons pas de représentation intérieure. Cette mort atroce, horrible, nous ne savons pas nous la représenter. Et bien donc, ce tableau de la mort de la Vierge, un corps là aussi de noyé, au ventre gonflé, le teint jaune, il a attiré une foule à Rome en 1606, aussi considérable que celle sans doute qui se presse au Jacquemart-André et s'y pressera encore plus après votre émission, Toufik.
Alors, on parlera bien sûr de la réputation sulfureuse du Caravage, comment il va connaître Rome, comment il va être obligé de fuir Rome en laissant derrière lui quelques cadavres. Mais quand il peint à Rome, Olivier Vickers, il est dans la contestation d'un ordre établi, il essaye de sortir de ses codes, il essaye de les faire exploser. Je vous pose cette question parce que vous développez une piste très intéressante pour cette exposition au musée Jacquemart-André. Vous dites, n'oubliez pas que le Caravage peint depuis un exil, comme si cet exil va lui permettre plus de liberté.
Alors, ce qui est compliqué avec les génies et leur caractère vexant, c'est qu'on aimerait qu'ils se contentent de briser les cadres existants. C'est-à-dire, on aimerait, nous-mêmes qui vivons dans des cadres, nous raccrochons à des idées, des certitudes, que soudain un génie arrive, casse notre cadre pour en mettre un autre. On se dirait, bon, ça s'appelle le progrès. Et il y a une part de nous-mêmes qui, non sans raison, croit au progrès. Là où le génie n'est pas sympathique et n'a ni ami ni ennemi, mais surtout pas d'allié, pour jouer sur les mots du titre de l'exposition, c'est qu'en fait, il a un autre cadre. C'est-à-dire qu'il ne pense pas comme nous. Et il va nous amener à penser précisément différemment de ce qu'étaient nos modes de pensée.
Et pourquoi vous dites parce que c'est l'exil? Parce qu'il peint depuis l'exil.
Alors voilà, la plupart des peintres peuvent peindre pour vous montrer ce qu'ils aiment, des objets connus, des visages, un lieu finalement, un lieu commun, dans le bon sens du lieu commun, hein, la banalité de ce que nous reconnaissons comme figure. Or, Caravage ne cesse de défigurer, c'est-à-dire il vous présente un Saint Jean-Baptiste qui ne ressemble pas à un Saint Jean-Baptiste, il défigure Holoferne en le décapitant, parce qu'à vrai dire, lui paradoxalement pour un peintre, génialement pour un grand artiste, pense que la figure est un exil. C'est-à-dire que quand on prend figure, quand on prend forme, d'un certain point de vue, Caravage pourrait être un abstrait égaré au XVIe, XVIIe siècle à Rome. Et donc lui, toute identification, toute identité, tout corps nommé est comme la perte d'une abstraction première qui est son rapport, pour prendre une opposition, d'œil plutôt que de regard. Le regard nomme, reconnaît, comprend, cite. L'œil, finalement, est ébloui, un rapport immédiat de perception physique à un objet. Si vous regardez le Saint Jean-Baptiste, ce sont finalement des flaques de lumière qui rencontrent une ombre, et au bout du compte, ça fait un corps. Donc Caravage est essentiellement peintre, parce qu'il est capable, comme un musicien, de vous restituer sur un objet physique un jeu de relations. Et il est profondément génial, en tant qu'il vous dit, mais finalement, ce jeu de relations physiques qui met en jeu ton œil, qui met en jeu la lumière, des variations de lumière, c'est bien préférable à ce que tu vas faire du corps que je te donne, c'est-à-dire le vêtir d'un nom et le nommer. Et tu vas perdre, en prétendant mettre le jour de la langue, pour faire une référence au titre de mon ouvrage, « Perdre le jour », en mettant ce jour de la langue du nom qui permet la reconnaissance, l'échange, tu perds un premier rapport de vérité absolue, physique, merveilleuse, esthétique et plus vraie aux objets du monde et aux autres.
Le Caravage à Rome, amis et ennemis, vu et commenté par Olivier Vickers, mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Caravage à Rome, amis et ennemis au musée Jacques Marandré à Paris. Et pour nous en parler ce matin, Olivier Vickers, auteur d'un livre sur le Caravage, Caravage en 5 actes. Perdre le jour, c'était le titre que vous avez trouvé. Alors, on insiste encore sur cette période romaine du Caravage, Olivier Vickers. Elle est vraiment très particulière dans la vie et l'œuvre du Caravage.
Oui, au sens où c'est la ville où il va être connu, reconnu, commencer à peindre de plus en plus librement en s'affranchissant des ateliers et de leurs contraintes, et trouver son public, un public de clercs et de laïcs très riches qui s'entiche et rivalise d'initiatives pour obtenir un tableau de lui, puisqu'il refuse même les commandes. Donc de ce point de vue-là, loin d'être un artiste maudit, c'est plutôt un artiste très libre. Voir qui supporterait de la part d'une partie du public cultivé qui ne l'aime pas les mêmes critiques que notre public cultivé d'aujourd'hui adresse à un film américain, c'est-à-dire d'être un peu trop criard, facile dans ses effets brutaux, enfin c'est ce qu'ils disent. Et donc c'est une personnalité complexe de ce point de vue-là, du point de vue du marché de l'art qui n'est qu'un seul point de vue, celui du succès. La période romaine, elle se découpe quand même en deux, une période dont le musée Jacquemart donne un exemple à travers le tableau du joueur de luth, donc une période un peu des des jeunes gens en fleurs, pour là aussi reprendre un parallèle avec Proust, où ces jeunes gens chevelus et bouclés, leurs chemises blanches légèrement ouvertes, le col dénudé, donc cette période un peu de charme avec laquelle il va rompre très vite, et rompre très vite quand précisément son succès fait que le public qui a de l'argent lui demande les tableaux, non pas de genre, même s'il a cassé les codes du genre, mais des tableaux à l'époque qu'on appelle des tableaux d'histoire, donc plutôt des tableaux religieux. Et là, Caravage confronté à ce qui est le récit suprême de l'identité, c'est-à-dire le choix par Dieu des saints dont nous répétons encore les noms, compte tenu de ce que Caravage pense, du fait que la figure est un exil, que le récit est une hypocrisie ou un leurre, c'est là où il va être obligé, en quelque sorte, de développer des moyens techniques géniaux pour ne pas répondre à la commande. Parce que c'est là, finalement, un autre propre du génie, c'est que vous lui demandez quelque chose et il fait autre chose, parce qu'il prend ses ordres, selon qu'on est plus ou moins romantique, dans un ciel idéal, à l'intérieur de lui, dans on ne sait quelle rencontre. Et donc le Caravage de peinture d'histoire à Rome, c'est celui qui va défigurer la peinture d'histoire. Non pas d'ailleurs que tout en la défigurant, elle ne soit pas jugée aujourd'hui encore estimable, puisque Benoît XVI, un pape que nous sommes en train d'oublier, disait lui-même, si vous voulez avoir une idée de la manière dont Matthieu a été appelé, allez à Saint-Louis des Français, regardez le Saint Matthieu du Caravage. Donc vous pouvez regarder comme Benoît XVI le Saint Matthieu du Caravage, c'est-à-dire quelqu'un d'ordinaire, appelé par Dieu et donc transfiguré par Dieu, ou vous pouvez regarder, comme je vous propose de regarder Caravage, le Saint Matthieu de Saint-Louis des Français, comme un paisible quidam comme vous et moi, paisiblement endormi dans une identité un peu veule, mais au sein de laquelle il se trouvait fort heureux, appelé dans une sorte de folie à se prendre pour un autre, c'est-à-dire à redoubler l'erreur de l'identité. Matthieu n'était pas grand-chose qui lui évitait de s'apercevoir qu'il n'était rien comme nous tous, puisque la vérité est métaphysique et n'est pas physique, et le voilà devenu un saint, ce qui, du point de vue de Caravage, à mon idée, n'est pas grand-chose qu'un redoublement de l'erreur de l'identité, une deuxième folie, un deuxième rêve, une deuxième absurdité.
Diriez-vous la même chose, Olivier Vickers, pour son Saint Jérôme, puisque ça fait partie de l'inédit de cette exposition Caravage, ce chef-d'œuvre qui faisait, ça vous l'aviez dit en début d'émission, partie de la collection de la famille Borghese, et très vite, hein, dès le XVIIe siècle. Alors, Saint Jérôme qui est représenté en train de traduire le texte sacré, la Bible, c'est une manière aussi de dire que la religion n'est qu'interprétation, d'autant plus que ce qui est étonnant dans ce tableau, ce qui attire tout de suite le regard, c'est pas tant le Saint Jérôme, mais c'est ce crâne posé sur les livres à l'extrémité de la table.
Alors, la famille Borghese, puisque vous m'incitiez à reparler aussi à l'occasion de la vie à Rome, Borghese aime tellement, neveu du pape, aime tellement Caravage, qu'il fait mettre en prison des propriétaires de tableaux du Caravage, dont la rareté sur le marché, après sa fuite, est encore accrue, pour les libérer contre les tableaux. Donc vous voyez que la folie qu'a inspiré Caravage, passion de possession, en effet, ne date pas de l'exposition Jacques
Marandré. Et quand Caravage mérite la prison, il s'arrange pour le laisser libre.
Oui, tous plus ou moins veulent qu'il travaille, en fait, quand bien même sur le travail, ils peuvent avoir des appréciations contrastées. Donc, le Saint Jérôme à sa table, il a de cela de magnifique, c'est que, par rapport à ce que nous disions en introduction, tout le monde en parle, Caravage dit, on a sans doute tort de bavarder, il n'est pas certain que nous ayons raison d'écrire. Donc, il ne nous le fait pas dire que l'homme des mots qu'est Jérôme, l'écrivain qu'est Jérôme, le traducteur qu'est Jérôme, qui redouble donc l'écriture dans la traduction. Je parlais de Matthieu redoublant l'identité dans la sainteté. Jérôme, il se contente pas de laisser la Bible reposer paisiblement, il faut qu'il la traduise en latin, qu'il en fasse la Vulgate. Donc il écrit sur un écrit, il copie l'air un peu stupide et borné, avec ce grand front ridé. Devant le Saint-Jérôme tout fixe, je dis, passez-moi une allumette, puisque vous avez des vieux grimoires, un vieux parchemin, cette vieille table, ce vieux cuir tanné de cet homme. Craquez une allumette, il brûlera, et vous serez débarrassé des livres, de l'écriture, de la Vulgate et de la succession des interprétations. Donc je crois que Caravage rend paroxystique la folie que je ne déteste pas, qui est des livres, qui est de penser que les livres, les grimoires contiennent une vérité qui ne s'est pas évaporée et qui va passer quand on en manie le papier, le calame à la main, du génie du passé jusqu'à un petit public d'aujourd'hui. Et donc Saint-Jérôme, il est à la fois sublime et grotesque. Enfin, il y a de la raillerie, de la compassion, parce que Caravage, comme tous les génies, a pas de temps à perdre à se moquer des gens. Chacun lui évoque une blessure, une douleur, une idée.
Et là, en l'occurrence?
Ben, je crois que c'est une compassion forcenée pour effectivement cette figure d'écrivain, une prétention absolue du peintre de représenter l'écrivain comme un vieux papier lui-même, donc que la peinture peut tout dire, et en tout cas une absence de jalousie pour la langue qui est frappante pour qui regardera le tableau, et pour un écrivain, c'est un tableau assez agaçant, parce que agaçant, nous sommes tous de vieux barbons qui rédigeons sur un même palimpseste en espérant que vos éditeurs y verront un nouveau livre et une nouvelle raison de se lever le matin.
Merci beaucoup d'être passé ce matin, Olivier Vickers.
Je vous en prie, Tufik.
Caravage à Rome, amis et ennemis, c'est actuellement au musée Jacques Marandré.